Mireille Boukas à la présentation.
Les combats dans le nord Kivu restent à la une. Le camp militaire de Roumangabo est tombé entre les mains du CNDP depuis cet avant-midi. Cette information du porte-parole de ce mouvement est confirmée par des sources indépendantes. Dans le Bandundu, par contre, le calme est revenu ce matin à Kaemba. La vie a repris après une bagarre depuis lundi entre la police et les habitants de cette cité. L'actualité, c'est aussi l'exploitation des carrés miniers de Nzibira au sud Kivu qui est au centre d'un conflit. Il oppose les exploitants artisanaux aux autorités militaires, coutumières et politico-administratives de la place. Okapi, Okapi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, des combats violents à l'arme lourde ont opposé ce mercredi les FRDC au CNDP dans le territoire de Rutshuru. Des combats qui ont embrasé toute la région qui couvre les localités de Nkokwe, Rugari, Bukima, Kabaya et Ngugu. C'est à près d'une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Goma. D'autres combats ont été également signalés vers les hauteurs du centre de brassage de Roumangabo et Ntamugenga vers la frontière de Bunagana. C'est toujours à Rutshuru. Mais pour l'instant, la situation est relativement calme, à part des tirs sporadiques entendus ça et là jusqu'en début de soirée. Gisèle Cage.
Le CNDP de Laurent Kunda annonce dans un communiqué ce mercredi le contrôle depuis cet avant-midi du camp de Roumangabo par ses troupes. Ce même communiqué indique qu'un important lot de munitions abandonné par les FARDC a été saisi par le CNDP. Cette information est confirmée par plusieurs sources indépendantes dans les territoires de Rutshuru. Le CNDP confirme aussi la prise d'une Tamugenga à près de 7 km de Bunagana à la frontière congolo-ougandaise dans le territoire de Rutshuru. Mais côté FARDC, les responsables qui ont confirmé dans la matinée l'intensité des combats sont restés injoignable cet après-midi. Des sources concordantes font état d'une baisse d'intensité des combats en début de soirée. Selon le CNDP, dans la matinée, les FARDC avaient utilisé des mortiers de haute portée pour pilonner simultanément leurs positions en Nkokwe, Rugari, Ngugu, Kabaya et Bukima. Nkokwe et Bukima étaient jusque-là une zone tampon entre les FARDC et le CNDP. Rugari était sous contrôle des belligérants et Kabaya était sous le contrôle des FARDC. En Nkokwe, un habitant qui restait terré sous son lit toute la journée a confirmé la violence des combats. Des milliers d'habitants de cette région ont fui certains vers Luvunga et Katale à une vingtaine de kilomètres de Rutshuru au centre, affirmait-il. D'autres, par contre, sont arrivés à Rutshuru au centre, indique le chef coutumier de la collectivité de Bwisha, qui demande à cet effet l'implication du gouvernement congolais pour trouver des solutions à ce drame humanitaire. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
La situation humanitaire, elle, ne fait que se détériorer au Nord Kivu. Ce constat est de l'ONG Médecins Sans Frontières Belgique qui travaille dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Lubero. Les responsables de cette ONG humanitaire affirment que des centaines de milliers de personnes fuient les combats et d'après MSF Belgique, il y en a qui prennent des destinations inconnues et très souvent elles sont prises en étau entre les groupes armés belligérants dans des zones inaccessibles par des ONG humanitaires. Sur ce, le chef de la mission de MSF Belgique demande plus de sacrifices et d'efforts aux ONG internationales présentes au Nord Kivu. Colette Djezen est jointe par Bernard Danyangi.
Nous, ce qu'on veut dire, c'est que la communauté internationale, malgré tous les efforts qui sont faits par les ONG, on pense que c'est encore très loin de répondre aux besoins réels des populations. Et avec la reprise de la guerre, c'est encore pire qu'avant. Aujourd'hui, il y a énormément d'ONG qui n'ont pas accès au terrain, qui se retrouvent vraiment assez loin de Goma. Donc, ce qui nous inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est que même s'il y a une partie de l'aide humanitaire qui atteint certains types de populations, il y a aussi énormément de personnes qui ne sont pas du tout assistées aujourd'hui. Mais c'est tout simplement pas où elles sont. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous, on pense que c'est pas impossible aussi de créer des espaces humanitaires. En tout cas, nous, on y arrive là où on est.
La scolarité des enfants est aussi affectée par ces combats récurrents dans le Nord Kivu. Sachez qu'aucun enfant des familles déplacées n'est jusqu'à ce jour admis dans les écoles depuis la rentrée scolaire 2008. Le coordonnateur de la commission humanitaire au sein du programme Amani a fait ce constat après une série de missions effectuées dans des zones touchées par la guerre. Il crie au secours de ces enfants congolais qui risquent d'être compromis. Le professeur Machako Mamba le dit à Sifa Maguru.
Je considère sur le terrain plusieurs fois que le nombre de nos déplacés, avec le secteur de Rutshuru, Massy et Calais, nous avoisinons les 2 millions de déplacés. Et je ne pourrais pas hésiter à dire qu'on a presque un demi-million des enfants d'âge scolaire qui pratiquement aujourd'hui sont sacrifiés dans le province du Nord et du Sud-Kivu. Mais aujourd'hui, je peux affirmer qu'il n'y a aucun enfant de déplacé qui étudie. Et je pense, en comptabilisant sur ces centaines de milliers d'enfants, le nombre ne dépasse pas 50. Il y a là un génocide intellectuel qui est évident, qui serait souhaitable que le gouvernement intervienne pour qu'on organise cette scolarisation pour les enfants autochtones l'avant-midi et l'enseignement des enfants des déplacés dans l'après-midi.
Nous l'avons annoncé, le calme est revenu ce matin à Kaemba dans le Bandundu. La vie a repris dans la cité après une bagarre depuis lundi entre la police et les habitants de cette cité. Des services de l'ordre dépêchés sur place par le gouverneur ont rétabli la sécurité. C'est une affirmation du président de la société civile de Kikwit en séjour dans cette cité. Placide Moukwa le dit à Belinda Bosuma.
J'ai fait un tour dans les quelques écoles, dans l'administration et dans les marchés. J'ai vu que les activités ont repris. Les écoles ont réouvert, l'administration fonctionne, sauf quelques sceptiques qui préfèrent encore observer au marché. Mais tout est calme et tout a repris, la vie a repris. Les policiers ne sont plus en brousse, ils sont cantonnés au camp militaire qui est presque derrière le bureau du territoire, à 1 kilomètre du territoire ou à presque 2 kilomètres de la cité. Il y a eu 2 blessés du côté civil, 2 blessés du côté policier. Tous les 4 sont admis à l'hôpital. Ils suivent des soins.
Pour rappel, les éléments de la police locale étaient en débandade depuis lundi face à une population en colère qui protestait contre la blessure par balle d'un habitant à la suite d'une bagarre. De toutes les armes et munitions saisies par la population, 11 ont été récupérées hier et l'opération s'est poursuivie ce mercredi d'après le président de la société civile de Kikwit. Le gouvernement congolais a confirmé hier sa candidature à l'organisation en 2010 du 12e sommet de la francophonie à Kinshasa. D'après le ministère congolais des Affaires étrangères cité par l'AFP, Joseph Kabila l'a fait savoir dans une note destinée au secrétaire général de la francophonie, rappelant qu'en septembre dernier, une délégation des experts de l'Organisation internationale de la francophonie avait officiellement remis aux autorités congolaises les documents matériels et techniques en vue de l'organisation d'un sommet de la francophonie. À Kinshasa, les députés provinciaux ont adopté dans la plénière de ce mercredi le projet de loi de l'édit relatif aux impôts, taxes et droits provinciaux dus à la ville. Ces taxes sont dues précisément sur les véhicules, immobiliers et routes. Toujours à la plénière d'aujourd'hui, le gouverneur de la ville province de Kinshasa a présenté le budget exercice 2009. L'élection du vice-premier président était également à l'ordre du jour.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Au sud Kivu, le territoire d'Uvira célèbre ce 8 octobre la journée provinciale de l'arbre.
Cette journée a coïncidé avec le lancement officiel de la campagne de reboisement par l'ONG CEFI, Centre d'éducation et des formations intégrées. Une centaine d'acteurs locaux intervenant dans le domaine de l'environnement ont été sensibilisés sur les conséquences de l'abattage abusif et désordonné des arbres à Uvira. L'ONG CEFI a tiré la sonnette d'alarme sur le danger de l'usage de l'eucalyptus utilisé dans le système actuel pour reboiser les collines dénudées d'Uvira et dans la plaine de la Ruzizi. Près de 260 plantules fertilisant le sol ont été plantées sur les cours des 3 écoles de la place dans la cité d'Uvira.
Toujours au sud Kivu, Lucie Amba, parlons des plaintes des exploitants artisanaux actifs dans les carrés miniers de Nzibira dans le territoire de Walungu.
Ils accusent les autorités militaires, coutumières et politico-administratives de la place de se constituer, elles aussi, en creuseurs des minerais. Sur 7 jours ouvrables, les exploitants affirment n'avoir droit qu'à 2 jours, alors que les autorités exploitent les sites les autres jours. La division provinciale des mines reconnaît cette pratique, mais elle avoue son incapacité à y mettre fin. Jean Kassami.
Qu'il soit en ordre avec les services des mines ou pas, les creuseurs artisanaux à la recherche des minerais en Zibir n'a pas le droit de travailler 7 jours sur 7. Il est obligé de partager son puits minier avec les autorités militaires, coutumières et administratives du territoire. Selon la société civile d'Enzibira, les exploitants ne travaillent que le lundi et le mardi. Les jours suivants seraient répartis entre l'autorité territoriale, la collectivité chefferie d'Engweche, les commandants de l'unité FARDC en place et la 10e région militaire. Les exploitants artisanaux d'Enzibira en possession des cartes délivrées par les services habilités se plaignent en silence. Aucun d'eux n'a accepté de se livrer à notre micro. Le chef de division des mines au Sud Kivu reconnaît les faits. Tembeze Nyamugusha déplore la complicité de plusieurs services étatiques dans cette situation.
Et il n'y a pas qu'en Zibira, dans les territoires de Walungu, je connais que même à Tubimbi, c'est le même problème. À Mukungu, les puits sont occupés tantôt par les militaires, tantôt par les autorités coutumières, tantôt par les autorités administratives. Alors que la loi, le code minier, prohibe carrément les magistrats, les autorités administratives. Ce qui est plus navrant et plus frappant, c'est de constater que même ces gens qui sont détentrices de cartes, ils sont découragés parce qu'ils sont forcés même de libérer les puits en faveur de ceux-là qui ont le pouvoir.
Il ajoute que la division des mines au Sud Kivu a généré plus de 3 millions de dollars américains depuis janvier 2008 jusqu'à ce jour pour les comptes du trésor public et que cette situation affaiblit une ressource importante pour la province. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, la criminalité refait surface dans le territoire de Lubao.
En l'espace d'un mois, 3 personnes ont été abattues dans leur maison par des personnes non identifiées. L'information est livrée par la société civile du Kasaï oriental, section des Lubao, qui souligne que cette hausse de la criminalité suscite une psychose au sein de la population. Nick Mputu nous en parle.
Le dernier cas en date est le décès d'un homme d'une soixantaine d'années tué à l'arme blanche par des inconnus dans la nuit de ce mardi. L'administrateur de territoire de Lubao indique que la police a réussi à mettre la main sur 2 personnes suspectes dans l'assassinat de ce mardi. Par ailleurs, le président de la société civile Lubao indique que les éléments de la police envoyés sur le lieu du crime pour constat des faits s'en sont pris à la population habitant les alentours du lieu de crime. Habits, vélos, bétail et sommes d'argent ont été emportés sous la menace d'armes. Cette situation a engendré une panique générale dans toute la cité des Lubao. Baudouin Marielle Milamba, président de la société civile, ajoute qu'actuellement la population vit dans la psychose et commence à vider ses biens pour les cacher en brousse. Une information confirmée par l'administrateur du territoire. Dans une réunion extraordinaire de sécurité convoquée ce matin, l'administration du territoire a demandé au commandant de la police d'instruire ses éléments de restituer les biens emportés. Entre-temps, une enquête est ouverte pour retrouver un des auteurs du crime. Mujima Inikemputu, Radio Okapi.
De l'autre côté, au Kasaï occidental, l'eau a coulé à nouveau cet après-midi au robinet de la ville de Kananga.
Cela après plus d'une semaine et demie de pénurie due au manque de carburant par la régie des eaux. Son directeur provincial ad intérim affirme qu'ils ont reçu près de 2 mètres cubes de gasoil pour le fonctionnement de leur machine. Mais ce rétablissement n'a duré que quelques heures. C'est ce que dit Cathy Kataï dans son reportage.
La joie était sur les visages de certains habitants de Kananga cet après-midi. Pour cause, l'eau potable a coulé des robinets de certains quartiers de la ville. C'est là après près de 2 semaines de graves pénuries. Pendant cette période de calvaire, la population recourait à l'eau des sources, parfois non aménagée, avec tous les risques que cela présente. Le seul lieu où on pouvait trouver de l'eau potable était le vieux château de la régie des eaux. Mais cela n'était pas aussi facile qu'on le pense. Il fallait venir tôt pour trouver de l'eau tard. Cette eau n'était même pas gratuite. Un bidon de 20 litres revenait entre 60 et 70 francs congolais. La responsable de la régie des eaux justifie cette pénurie par le manque de carburant pour le fonctionnement de leurs machines. Pierre Banza, directeur d'intérim de la régie des eaux, affirme qu'une solution est trouvée. Ils ont reçu près de 2 mètres cubes de gasoil, ce qui a permis de desservir quelques quartiers cet après-midi. Il appelle la population à s'acquitter de ses factures afin d'éviter des situations similaires. Mais ces rétablissements n'auraient duré que l'espace de 2 heures. Katika Taï, Kananga, Radio Okapi.
La halle de la Gombe accueille une exposition des tableaux de peinture de 2 jeunes artistes plasticiens congolais.
Vichwa Mwilambwe et Apollinaire Wantina exposent une dizaine de tableaux mélangés avec des séquences vidéo. Ces œuvres décrivent le paysage médiatique congolais. C'est ce qui justifie le choix du thème « Bruits et mensonges » attribué à cette exposition. L'exposition est enrichie par une séance des démonstrations où les artistes présentent leurs œuvres œuvre avec une projection audiovisuelle. Apollinaire Wantina et Vichwa Mouilamboué font partie d'un collectif d'artistes dénommé Librisme Synergie. C'est une association visant la création libre et innovante hors des normes académiques. L'exposition s'est tient du 7 octobre au 1er novembre 2008 à la Halle de la Gombe, bien sûr.
En page internationale, l'ex-ministre rwandais du plan Augustin Ngirabatware a arrêté en Allemagne il y a un an pour son implication présumée dans le génocide de 1994 au Rwanda, a été remis ce mercredi au tribunal pénal international pour le Rwanda. Selon un communiqué du tribunal, Ngirabatware, économiste Hutu formé en Suisse, avait été arrêté le 17 septembre 2007 dans la région de Francfort, d'où il a été transféré au centre de détention du TPIR à Arusha. Sixième journée des éliminatoires CAN Mondial 2010, la délégation des Léopards quitte Kinshasa ce vendredi à destination de Blantyre par un vol spécial. Les deux derniers joueurs attendus pour le regroupement arrivent ce mercredi à Kinshasa, à savoir Ilunga Erita et Miyaho Kazembe. Patrice Neveu, le sélectionneur des Léopards, entend monter une équipe commando pour le match contre Malawi qui se jouera ce samedi. Les sportifs peuvent suivre ce match en direct sur Radio Capi à partir de 13h30 ce samedi. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au Capi.